Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Situation tendue hier à Nyanzale et sur l'axe Mabenga-Ruindi dans le retour au Nord Kivu. Des violents combats y ont opposé le M23 aux FARDC et groupes armés locaux. Du coup, plusieurs localités dans la zone se sont vidées de leurs habitants. Début hier à Kinshasa de l'examen des contentieux électoraux pour les députés provinciaux. Sur 21 dossiers alignés pour ce premier jour, 5 ont été traités pour la Gombe, circonscription à siège unique. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La situation est restée tendue et préoccupante dans la zone de Nyanzale et sur l'axe Mabenga-Ruindi dans le territoire de Rutshuru. Ces deux axes étaient toute la matinée d'hier lundi le théâtre des violents combats opposant les rebelles du M23 et soutenus par l'armée rwandaise à l'armée congolaise et groupes armés locaux. Plusieurs localités du groupement de Mutanda, y compris Nyanzale et ses environs, se sont vidées de leurs habitants. Bernard Nyangi revient sur la situation qui a prévalu hier sur la ligne de front.
Les combats ont baissé d'intensité l'après-midi de ce lundi, après des violents affrontements signalés entre 5h du matin et 11h locales, opposant les FARDC soutenus par les groupes armés locaux aux rebelles du 1-23, notamment dans les villages autour de Nyanzale, groupement Mutanda, et sur l'axe Mabenga-Ruindi au nord de Kiwanja, chefferie de Bwito. Plusieurs sources civiles indiquent que les rebelles auraient occupé Kihondo, un des villages situés dans l'entrée sud de l'agglomération de Nyanzale, après ces violents combats. Des obus ont frappé ce village vers 7h30 locale, faisant au moins un blessé parmi les civils et touchant la base des casques bleus de la MONUSCO. Sur l'axe Mabenga, si toutes les deux parties gardent encore leur position, nos sources parlent aussi des bombes qui seraient tombées sur les cultivateurs dans la lisière du parc national de Virunga autour de Mabenga, faisant quelques blessés. Actuellement, plusieurs villages, notamment Nyanzale, Kirima, Kabingu, Bualanda, pour ne citer que cela, sont vidés de leur population qui ont pris la direction de Kanyabayonga. D'autres se sont déplacés vers Kibirizi, qui vit aussi de plus en plus dans la panique. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, plus de 20 000 ménages venus du groupement de Mufuni-Shanga en chefferie de Baoundé, territoire de Masisi, déplacés à Minova dans le territoire de Calais au sud Kivu, vivent dans une précarité totale. La dynamique de la société civile de Mufuni-Shanga, qui livre cette information, affirme que toutes ces personnes sont sans assistance depuis un mois. Elles n'ont ni nourriture ni abri et passent la nuit à la belle étoile. Les responsables de cette structure disent craindre l'apparition des maladies liées à l'hygiène de proximité. Sachez que le gouvernement a dépêché une importante délégation élargie à l'Assemblée nationale pour apporter de l'aide aux déplacés de la guerre qui endeuillent les populations de l'Est. Cette délégation qui est arrivée le dimanche à Goma est conduite par Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales. Elle poursuivra le même travail à Bukavu afin d'assister également les déplacés internes de ce coin du pays. Restons au Nord Kivu. À Goma, la police a dispersé hier une marche des membres des mouvements citoyens et des groupes de pression du Nord Kivu. Les organisateurs entendaient parcourir quelques artères de la ville avant d'arriver au cabinet du gouverneur de province. Ils avaient un mémorandum à remettre à l'autorité provinciale à l'attention du chef de l'État. Dans ce document, ils demandent au président de la République de se pencher avec priorité sur la question socio-sécuritaire de la province du Nord Kivu. La police est intervenue pour stopper la marche et a procédé à l'interpellation de 8 jeunes membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement LUCHA. En Ituri, un activiste des droits humains a été arrêté samedi par les services militaires au centre commercial de Komanda. Nous sommes à 75 km de la ville de Bunia, territoire de Irumu. Selon la Convention pour le respect des droits humains CRDH, l'armée l'accuse d'être de connivence avec le mouvement Alliance Fleuve Congo, AFC, parti allié de la rébellion du M23 qui déstabilise l'est du pays. L'activiste aurait publié il y a un an une photo sur son compte Facebook où il était aux côtés de Corneille Nanga, responsable de l'AFC. Des précisions avec Christophe Mounianderou, qui juge cette arrestation d'arbitraire et plaide pour la libération de leurs collègues. Il est au micro de Ezekiel Mousalia.
les motifs de son arrestation. Il dit juste par une photo prise avec l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa à Kisangani. Et nous, activistes et défenseurs des droits humains, qualifions cette arrestation d'une arrestation arbitraire et demandons la libération de notre collègue, des grands hommes politiques et qui prenait des photos avec Corneille Nangaa, ne sont pas jusqu'à présent inquiétés. Même le président de la République avait pris le pouvoir de diriger notre cher pays. C'est à travers la main de Corneille Nangaa, quand il était président de la CENI. Nous suggérons au commandant d'éviter d'être induit en erreur par certains hommes politiques qui veulent manipuler l'armée. Le coordonnateur de l'ONGDH, Guardo, est arrêté juste parce qu'il avait pris une photo avec Corneille Nangaa. Cette photo circulait dans des réseaux sociaux et nous savons qu'il y a eu certains gens mal intentionnés qui ont cherché à nuire à la personne et de cet acteur défenseur des droits de l'homme. On ne sait pas le mobile d'avoir publié cette photo qui date de trop longtemps.
Le porte-parole de l'armée en Ituri promet de s'exprimer sur cette question dans les heures qui suivent. Je vous le disais en titre, la Cour d'appel de la Gombe a débuté hier lundi l'examen des contentieux électoraux pour les députés provinciaux à la Chambre unique. Nous sommes à Kinshasa. 21 dossiers ont été alignés pour ce premier jour. Ils concernent les circonscriptions de la Gombe, Ngiringiri, Kintambo, Makala et Lingwala. Babel Mpongo Masimango et Marie-France Mungindu ont assisté au traitement des dossiers de la Gombe. Elles nous en parlent dans ce reportage.
7 dossiers ont été traités ce jour pour la Gombe, circonscription à siège unique remportée par Fiston Blukwebo de l'AFDCA. Toutes les affaires concernaient donc des regroupements comme le MLC, l'UDPS, Tshisekedi, RCDT, 1AA ou AAEC contre l'AFDCA et la CENI. Maître Kipulu Samba du barreau de Matete, avocat de 1AA, explique le dossier qui le concerne.
Tolu Makamba a toujours été élu à la Gombe depuis 2018. Curieusement, cette fois-ci, la CENI ne l'a pas proclamé. Le peuple que nous détenons, nous, nous donne plus de voix que celui qui a été proclamé. Donny a 3000 et quelques voix. C'est lui qui a été proclamé avec moins de voix.
À la fin de ces 5 affaires, Maître Pokuta Kwala, qui a conduit les avocats de l'AFDCA, se veut serein.
Le ministère public a déclaré toutes les affaires irrécevables. Cela veut dire que c'est en faveur de notre client parce que tous les regroupements qui l'ont attaqué n'ont pas accompli les conditions exigées par la loi. La plupart n'ont pas atteint le seuil de représentativité. Tous ces regroupements ont donné des procurations, mais la qualité n'a pas été respectée. Le preuve, tout le monde a vu que la CENI n'a pas permis à qu'on ait de PV. Mais le juge, il faut lui amener les résultats et non spéculer.
Pour tous les 4 traités pour la Gombe, la CENI a appelé la Cour à confirmer les résultats qu'elle a publiés. La décision de la Cour est attendue le 14 mars.
Et puis, non à la cyberviolence verbale au débat politique sur les réseaux sociaux. Tel est le message de sensibilisation lancé par la dynamique des politologues de la RDC, d'IPOL, lors du lancement officiel du Politoscope en RDC. La conférence qui a marqué cet événement s'est tenue hier lundi au CEPAS à Kinshasa, où se trouve aussi le siège du Politoscope. Explication dans ce reportage de Greta Lulendo.
À la question de savoir ce qu'est le Politoscope, Christian Moleka, coordonnateur, répond.
Le Politoscope, un outil qui nous permet de monitorer les débats chez nous, de dénoncer les discours de violence et haine, mais en même temps de produire une analyse profonde de ce que font les Congolais comme débat politique. C'était difficile. Il nous faut travailler. Le Congo, il est grand. Donc nous allons nous ouvrir à tous les partenariats possibles pour mutualiser et essayer de toucher le maximum des Congolais.
Bébé Chibouaba, coordonnatrice déléguée de l'ONG OSPH, présente à cette conférence, rassure les initiateurs de ces projets du soutien de sa structure.
Des violences verbales, même physiques, une plateforme pareille nous permet de mettre un peu de l'ordre dans ce sens-là et c'est une belle initiative qu'il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à aller un peu plus loin et vous allez constater, nous, OSPH, nous avons même appuyé.
Carlos Tambou, activiste politique, appelle les jeunes qui ont pris part à cette conférence à vulgariser cet outil qu'est le Politoscope.
La jeunesse a été appréhendée comme un tremplin des politiciens. Aujourd'hui, l'outil est là. C'est à nous qui avons assisté aussi à la conférence de vulgariser cet outil en vue de permettre à ceux qui étaient absents d'appréhender ça.
Le Politoscope prévoit des sensibilisations et des formations des acteurs politiques ainsi que de la population consommatrice des discours des politiciens.
Dans l'actualité aussi, l'ambassadrice du Canada en RDC est à Kananga depuis hier. C'est pour évaluer certains projets financés par son pays au Kasaï central. Il s'agit notamment du projet Voix et Leadership pour l'autonomisation de la femme et la réhabilitation de l'hôpital Saint-Georges de Kananga. Après sa rencontre avec le gouverneur et la visite d'une ONG locale, Maryse Guilbeault a indiqué que le Canada est plus engagé dans des projets de développement. On écoute l'ambassadrice du Canada en RDC dans ses propos recueillis par François Kadima.
Le potentiel qu'il y a dans le pays, dans la province ici, pour des entreprises canadiennes qui seraient intéressées à venir investir. Alors pour nous, l'investissement à l'étranger, c'est important. Et c'est un des domaines que je veux explorer le plus pendant ma mission ici, c'est augmenter les relations commerciales et économiques entre la RDC et le Canada. Les projets qu'on finance, c'est des projets de développement. Donc c'est de petits, moyens, grands projets. Par exemple, Voix et Leadership des femmes, à raison de 9 millions de dollars jusqu'en 2028 pour aider l'empouvoirment, l'autonomisation des femmes, les droits des femmes, les droits des filles. On a des projets plus modestes aussi, comme celui de réfection d'une partie de l'hôpital Saint-Georges, à raison de 3 millions de dollars canadiens, donc 2,5 millions dollars américains pour une aile dédiée vraiment à des problèmes obstétriques chez les femmes et les jeunes filles.
Direction le Congo central. Les activités commerciales dans le marché transfrontalier de Lufu avaient tourné au ralenti en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, vous le savez. À la reprise des activités après le confinement, l'Angola a refusé d'organiser sur son territoire le marché qui s'éteignait alternativement une semaine de chaque côté de la frontière. Et du coup, le marché hebdomadaire devient journalier sur le sol congolais avec une forte affluence les vendredis et samedis. Quels sont alors les principaux échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola dans le marché transfrontalier de Lufu? C'est la suite de notre série de reportages avec Daniel Tambinzoni.
Alors que dans les années 80-90, les Congolais offraient tous les produits vivriers aux Angolais, aujourd'hui la tendance s'est inversée depuis 2012-2013. L'Angola offre quasiment tout, même le piment et le chikwang. Le chef de l'agglomération de Lufu, Benjamin Kumbi, le reconnaît.
L'Angola nous donne tout, sauf rien.
Et nous, en retour, on donne rien?
Non, en retour, nous leur donnons le balai, l'huile de palme, le cocotier.
Donc toute l'industrie manufacturière de l'agroalimentaire, tout vient de l'Angola.
Vient de l'Angola. Même les foufous, même les aubergines, même les pommes de terre, même les chikwang, même les foufous, même les oignons, ça vient de l'Angola.
Mais une vendeuse angolaise relativise, c'est vrai que les produits made in Angola dominent sur le marché, mais cela n'empêche pas les Congolais de vendre leurs produits qui sont aussi convoités par les Angolais.
Les Angolais préfèrent souvent mélanger les styles vestimentaires. Ils achètent les produits angolais et congolais. Ceux qui ont les moyens pour s'offrir les produits congolais viennent souvent les chercher ici auprès des Kinois qui le vendent.
Les balais, les noix de coco, l'huile de palme et quelques produits manufacturés comme l'huile le végétal Simba et les chaises de Hockeyplast sont les produits que la RDC exporte par le marché de Lufu. Seulement, ils sont en quantité tellement minime qu'ils sont dilués dans les produits angolais.
Une autre série de reportages que vous propose Radio Kapi, c'est au Nord Kivu avec l'Observatoire volcanologique de Goma. Sachez que l'OVG possède un vaste réseau de surveillance des volcans des Virunga. C'est notamment un réseau de sismiques qui suit la sismicité ou le tremblement des terres, un réseau géodésique pour mesurer la déformation du sol, mais également un réseau géochimique pour la mesure du gaz. Des détails avec vous, Sifa Maguru.
D'après les directeurs scientifiques de l'OVG, ce mécanisme de surveillance aide efficacement à suivre le mouvement du magma à l'intérieur de la région de ces deux volcans, Charles Balagizi.
Quand le magma monte vers la surface, ça casse les roches, et casser les roches veut dire en surface vous avez des déformations, comme ce que nous avons observé lors de l'éruption de mai 2021, n'est-ce pas? On a vu des fissures partout, n'est-ce pas? C'est parce que le magma est monté en surface. Et donc, nous suivons également ces genres de déformations au niveau de la surface du sol.
En outre, ajoute l'OVG, son réseau séismique est composé de 19 stations, dont 7 ne sont pas opérationnelles actuellement à cause de l'insécurité et d'autres sont en panne, expliquent ces chercheurs de l'OVG.
Mais dans l'ensemble, comme vous le voyez, sur 19 stations, nous avons 12 qui sont opérationnelles et sept qui ne le sont pas. Mais le réseau, comme vous le voyez, il est toujours dense.
Charles Balagizi ajoute que tous ces systèmes installés autour des volcans et du lac Kivu permettent de détecter toute information liée soit au volcanisme ou soit à l'activité du rift et de faire le point hebdomadaire dans son bulletin de chaque lundi destiné à informer la population. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Présidentielle au Sénégal, la date du 2 juin préconisée, mais l'opposition la refuse. En effet, les conclusions d'un dialogue national préconisant d'organiser la présidentielle au Sénégal le 2 juin, soit deux mois après la fin du mandat du président Macky Sall, ont été officiellement remises au chef de l'État hier lundi, provoquant la colère de l'opposition. Cette dernière plaide pour l'organisation du scrutin avant le 2 avril, date de l'expiration du mandat présidentiel. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.